Et sur RFI, il est maintenant midi et demi temps universel, 13h30, tout juste ici à Paris. Comme promis, c'est Afrique Midi, toute l'actu africaine avec vous, Nicolas Brousse, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour tout le monde. On joue les prolongations en Namibie, dernier jour de vote pour les élections présidentielles et législatives, scrutin marqué par des problèmes d'organisation qui ont engendré d'énormes files d'attente devant certains bureaux de vote pour ces élections qui s'annoncent serrées. Nous reviendrons sur la décision tchadienne de suspendre l'accord de défense avec la France, une décision qui surprend beaucoup à Paris et ailleurs. En Centrafrique, les forces étrangères sont russes, en l'occurrence les paramilitaires du groupe Wagner qui ont été source de tensions hier à Bambari pendant les préparatifs de la fête nationale. Première nuit passée dans une prison belge pour la chanteuse malienne Rokia Traoré. Elle est en conflit avec le père belge sur la garde de son enfant et sa non-présentation lui a valu d'être condamnée par la justice. La 26e CAN féminine de handball, début mitigé pour la RDC, pays hôte, qui a rendez-vous tout à l'heure avec la Tunisie elle-même en difficulté. Nous entendrons la capitaine des Léopards qui veut y croire malgré sa blessure. Afrique Midi, une demi-heure d'actualité africaine, bienvenue. On tourne ensemble la première page. Et tout d'abord, cette évolution qui est une petite révolution. Depuis ce matin, les numéros de téléphone béninois sont passés de 8 à 10 chiffres, nouveau plan de numérotation, car le système d'attribution de numéros de téléphone était arrivé à saturation avec la téléphonie mobile. Avec deux chiffres de plus, les combinaisons potentielles se chiffrent par dizaines de millions, ce qui garantit une disponibilité de 50 ans. Deux chiffres, mais pour faire simple, un seul préfixe pour tous les numéros. Il faut donc désormais ajouter 01 au numéro de téléphone du Bénin. Explication avec à Cotonou, Jean-Luc Aplogan.
Les millions d'abonnés béninois n'ont pas été surpris. Ils connaissaient la date du nouveau plan de numérotation. L'organe de régulation des communications et les opérateurs GSM ont démarré très tôt leur campagne d'information. Certains l'ont annoncé avec un coup de gant, comme cela se fait pour porter le message d'un roi à ses administrés.
Uzwa janu we queen e mino yilo menale sinuwa do nambewedo azang bango.
Le nouveau plan de numérotation démarre le 30. 17 comédiennes dans ce spot d'un opérateur de téléphonie mobile et chaque fois que vous composez un numéro du Bénin, un message vous informe.
Pour vos prochains appels, faites précéder le numéro de votre destinataire de 01.
Tous les numéros doivent être précédés du 01, quel que soit l'opérateur. Les anciens numéros à 8 chiffres vont s'éteindre dans un mois, le temps de la transition. La première conséquence pour les abonnés est d'actualiser leur répertoire téléphonique. Des applications gratuites sont à disposition pour une conversion automatique des contacts. La transition ne s'est pas faite sans perturbation. 48 heures avant, plusieurs services d'un opérateur GSM étaient indisponibles, mais l'opérateur avait prévenu. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Voilà, on rajoute donc 01 au numéro de téléphone au Bénin. En Côte d'Ivoire, sauf surprise, Simone Eyive doit être désignée cet après-midi candidate à la présidentielle d'octobre 2025. L'ex-épouse de Laurent Gbagbo est la seule à briguer l'investiture de son parti, le Mouvement des Générations Capables. Le MGC qui tient aujourd'hui sa première convention à Moussou dans la commune de Grand Bassam, un choix qui ne doit rien au hasard. Moussou, c'est le village natal de l'ancienne première dame. Nous y reviendrons bien sûr dans Afrique Soir. En Namibie, les électeurs ont donc une nouvelle chance, une nouvelle journée pour aller voter. Le scrutin est prolongé. Un troisième jour pour permettre au maximum des 1 500 000 électeurs de choisir leur président et leur député. Christina Okello nous a rejoint en studio. Christina, cette prolongation a été annoncée hier par la commission électorale suite à des défaillances qui ont empêché de nombreux citoyens de voter. Précisons que c'est une situation inédite pour ce pays d'Afrique australe, reconnu pour sa stabilité et sa tradition démocratique.
Oui, Nicolas, la stupéfaction demeure pour les Namibiens, mais la persévérance également. Dans le nord de la Namibie, un électeur confié par exemple hier à l'AFP qui revenait chaque jour pour tenter de voter en vain. Pourquoi ces désordres? Des problèmes logistiques, une pénurie de bulletins de vote et une surchauffe des tablettes électroniques servant à vérifier les identités des électeurs. Et pendant ce temps, des files d'attente qui grandissaient. Mais ce chaos logistique n'a pas ébranlé la détermination des Namibiens. Ce matin encore, de nombreux jeunes faisaient la queue, espérant voter. Le scrutin est serré entre les candidats de la SWAPO, parti au pouvoir, Netumbo Nandi Ndaitwa, et le principal opposant, Panduleni Itula. Les observateurs s'interrogent, la SWAPO va-t-elle connaître le même sort que le Botswana, où le parti historique a été balayé pour la première fois depuis l'indépendance? Dans la presse locale, beaucoup d'interrogations, Nicolas, sur ces couacs logistiques qui risquent d'alimenter des soupçons sur les risques de fraude. Les premiers résultats sont attendus dans un délai d'une semaine maximum.
Le point en direct de Christina Okello et les bureaux de vote doivent fermer ce soir à 21h, heure locale, sauf nouvelle surprise de dernière minute. La candidate de la SWAPO est en position de devenir la première présidente du pays, mais pourrait être contrainte à un second tour, lui aussi inédit. En RDC, cela fait 3 ans aujourd'hui que l'armée ougandaise a débuté ses opérations conjointes avec les FARDC contre les extrémistes des ADF. L'opération, baptisée Shuja, a pour mission d'éradiquer la menace que représente ce groupe armé, particulièrement violent, allié depuis 2019 à l'État islamique. Si en 3 ans des progrès ont été enregistrés, la présence des UPDF sur le sol congolais soulève aussi de nombreuses critiques. En juillet, certains officiers ougandais ont même été accusés par les experts de l'ONU d'apporter un soutien actif aux rebelles du M23. Kampala nie et ses soupçons de connivence avec le M23 n'ont d'ailleurs pas dissuadé la RDC de renouveler le mandat de l'opération en octobre. Mais Florence Maurice, les autorités ougandaises ont été sommées de donner des preuves de leur bonne foi.
C'était l'un des sujets à l'agenda du tête-à-tête entre les présidents Museveni et Tshisekedi à Entebbe en octobre. Le chef de l'État congolais exige de son voisin qu'il se désolidarise publiquement des rebelles M23. Message visiblement reçu. Cette semaine, chose rare, les autorités ougandaises ont arrêté 18 jeunes qui s'apprêtaient à rejoindre la rébellion. Les accusations de connivence ougandaise avec le M23 sont tombées en pleine discussion sur le renouvellement de l'opération Shuja. Opération stratégique pour les Ougandais, outre la traque des ADF, elle doit permettre de sécuriser leur route commerciale. L'Ouganda ne peut pas se permettre de rompre avec la RDC, mais cela ne veut pas dire que le soutien au M23 a totalement cessé, nuance une source militaire. Politiquement, Kampala plaide toujours pour des négociations directes entre la RDC et le M23. Or, c'est la position que défend le Rwanda, explique un analyste. En juin, à l'inverse, l'expansion de l'opération Shuja vers Butembo a contribué à stopper la progression du M23 vers le nord. Double jeu ou équilibrisme, Kampala ajuste sa stratégie en fonction des zones et de ce qui reste sa priorité, ses intérêts économiques, estime une source diplomatique.
Dossier suivi par Florence Maurice. L'annonce a résonné comme une déflagration dans les salons feutrés de la diplomatie française. Jeudi soir, le ministère tchadien des Affaires étrangères communiquait la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France. Annonce quelques heures seulement après la rencontre entre le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, et le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Le Tchad n'est pas le premier pays africain à rompre ainsi les liens militaires français. Mais les autorités à Paris ne l'avaient pas vu venir. Restées silencieuses pendant de longues heures, elles ont finalement communiqué hier soir en confirmant Paul Lorgery avoir pris acte de cette décision.
Un dialogue étroit est mené avec les autorités tchadiennes qui ont fait part de leur souhait de voir évoluer le partenariat de sécurité et de défense. C'est en ces termes que le ministère français des Affaires étrangères a pris acte de la décision du gouvernement tchadien. Une réponse diplomatique, quand bien même l'annonce a été faite en dehors de tout cadre diplomatique ou même politique. Alors, contactés par RFI, de nombreuses sources bien informées ont fait part de leur étonnement à l'annonce de la nouvelle. D'autant que la révision de cet accord en 2019, mentionné par le Tchad, n'a jamais été finalisée entre les deux pays. Si les motivations tchadiennes demeurent incertaines, la rupture survient quelques jours seulement après la remise à Emmanuel Macron du rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique. Une mission menée par Jean-Marie Bockel, avec pour objectif la réduction de l'empreinte militaire française sur le continent. Et parmi les pays concernés, le Tchad semble imposer son rythme, quitte à couper l'herbe sous le pied de l'Élysée.
Paul Lorgery nous le dit, la décision a surpris à Paris, mais pas seulement. Exemple avec le Gabonais Marcona, une figure de la société civile du continent. L'ancien président de l'association Tournons la Page rappelle que cette rupture du régime tchadien actuel avec la présence militaire française est annoncée alors que Paris a volé plusieurs fois au secours de N'Djamena.
La coopération militaire entre la France et certains pays africains diffère en fonction des intérêts. Le Tchad, pour moi, fait partie de ces pays qui ont bénéficié largement de cette coopération militaire avec des situations comme celles vécues il y a quelques années par le pouvoir tchadien. alors que les rebelles se trouvaient presque aux portes du palais présidentiel. C'est l'armée française qui est venue pour faire reculer les rebelles. Aujourd'hui, cette décision du Tchad m'interpelle et me surprend. Peut-être que les nouvelles autorités tchadiennes estiment avoir renforcé les capacités opérationnelles de leur armée pour se sentir autonome, soit les autorités ont ouvert la porte à d'autres puissances militaires.
Vous pensez à la Russie, aux Émirats Arabes Unis ?
Exactement. Le Tchad ne peut pas ne pas avoir des partenaires militaires. Vous savez, les technologies militaires ont évolué. Est-ce que nous, en Afrique, nous avons la capacité de développer cette technologie? On est obligé de passer par des coopérations militaires avec certains pays très avancés. Je suis observateur. J'aimerais surtout voir la suite.
Marc Onna, joint par David Bachet. Décision surprenante sur le fond, surprenante également sur la forme, puisque annoncée juste après le départ du ministre français des Affaires étrangères qui avait fait étape jeudi au Tchad. Dans le cadre de sa tournée en Afrique, Jean-Noël Barrot était hier en Éthiopie avec, dans ses dossiers, la coopération avec l'Union africaine, dont le siège est justement à Addis Abeba. Il s'est entretenu avec le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et pour le chef de la diplomatie française, la priorité est de relancer le dialogue stratégique entre la France et l'UA. Il a également été question des crises sur le continent et de la gouvernance mondiale. La réforme des institutions internationales, notamment du Conseil de sécurité de l'ONU, est un projet cher à la France. Cette réforme est même la seule voie possible, assure ce matin Jean-Noël Barrot.
J'ai réaffirmé avec beaucoup de force que la France soutient la volonté de l'Afrique de disposer de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité avec toutes les prérogatives qui leur sont attachées. La France défend le droit international et le droit international humanitaire en toutes circonstances et ne fait jamais de double standard. Ce qui l'amène et ce qui nous amène à nous mobiliser pour que ce droit international puisse être plus efficacement appliqué et pour que les institutions qui en sont les garants et au premier rang desquelles les Nations Unies soient pleinement légitimes. Cela passe par une réforme du Conseil de sécurité et c'est pourquoi nous soutenons la volonté de l'Union africaine et de l'Afrique de disposer de 2 sièges de membres permanents du Conseil de sécurité avec toutes les prérogatives qui sont attachées. C'est la seule voie possible pour donner sa pleine légitimité à cette instance essentielle de la gouvernance mondiale.
Propos recueillis par notre envoyé spécial Alexandra Branjon. Jean-Noël Barrot est à présent en route pour le Sénégal, où il assistera demain aux commémorations du massacre de Tiaroy. Nous en parlons dans une dizaine de minutes avec notre éditorialiste Jean-Baptiste Placa. En attendant, à qui peut profiter cette diminution de la présence des forces françaises sur le continent? Pour beaucoup d'observateurs, et on l'a entendu, aux Russes, déjà déployés sur une partie du continent via la milice Wagner. C'est le cas en Centrafrique, mais à Bambari, dans le centre du pays, un convoi des paramilitaires russes a foncé sur la population en pleine répétition du défilé prévu pour demain 1er décembre, jour de fête nationale. François Mazet, certains habitants furieux ont jeté des pierres sur le convoi et les forces de sécurité intérieure centrafricaines ont dû tirer en l'air pour disperser les mécontents.
L'incident a eu lieu aux environs de 10 heures sur l'avenue principale de Bambari. Plusieurs centaines de personnes étaient massées pour les répétitions du défilé du 1er décembre, jour de proclamation de la République en 1958. Pour éviter tout débordement, le périmètre était bouclé et la circulation déviée. Alors que l'exercice se poursuit, un convoi de paramilitaires russes du groupe Wagner n'a pas obtempéré. Nos forces ont essayé de faire dévier leur convoi, mais ils ont refusé, continuant tout droit sur les participants, explique Abel Matipata, le maire de Bambari, joint par téléphone. Cette situation a provoqué la colère de la foule qui, dans un premier temps, a bloqué le passage avant de jeter des pierres sur le convoi. Pour éviter que cela dégénère, les forces de sécurité centrafricaines ont essayé de repousser la foule avec des tirs de dissuasion, précise Abel Matipata. Aucune perte en vie humaine n'est enregistrée, mais l'hôpital préfectoral de Bambari a pris en charge 77 personnes, la plupart des femmes et des enfants, qui ont perdu connaissance suite aux détonations des armes. Les activités ont repris normalement dans l'après-midi à Bambari. Ni le gouvernement centrafricain, ni le groupe Wagner n'ont réagi à cette situation.
Récit de François Mazet. Il est pile 13h44 à Bruxelles où Rokia Traoré a passé sa première nuit en prison après avoir été transféré d'Italie. La chanteuse malienne est en conflit avec le père belge de son enfant et de procédure en procédure. Le litige autour de la garde parentale l'a conduite à être placée en détention. D'abord 4 mois et demi en Italie et puis donc en Belgique qui avait émis un mandat d'arrêt européen à son encontre. Les précisions avec à Bruxelles Pierre Benazé.
Le transfèrement de Rokia Traoré Traoré de la prison italienne de Civitavecchia s'est opérée ce vendredi à la mi-journée. La chanteuse malienne est arrivée à 15h à la prison de Arène, située dans le nord de Bruxelles. À son arrivée dans le quartier des femmes de cette prison inaugurée récemment, elle s'est vue signifier le jugement qui l'a conduite en détention, c'est-à-dire que le directeur de la prison lui a fait lecture d'un résumé de la décision prononcée en correctionnel l'an dernier. Cette formalité est loin d'être anodine, souligne son avocat, car elle met en branle le processus judiciaire. Rokia Traoré a été condamnée en 2023 à 2 ans de prison pour, je cite, « non-présentation d'enfants ». Elle a l'option de purger la peine décernée, mais le parquet estime que cela semble peu probable. Selon le parquet, je cite, « l'option la plus logique serait pour sa part de faire opposition ». Son avocat a déjà pu la rencontrer pendant une petite heure ce vendredi. Il a bien l'intention de lancer la procédure d'opposition qui entraînera un nouveau procès. Entre-temps, Rokia Traoré pourra déposer une demande de libération conditionnelle dans l'attente de l'ouverture du procès. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Du handball, les joueuses congolaises affrontent ce samedi leurs homologues tunisiennes après une victoire et une défaite lors des 2 premières journées. La RDC, pays hôte, doit mieux faire pour valider son ticket pour le prochain tour de cette 26e CAN. Diminuée par une blessure, Christiane Moisessa, la capitaine, reconnaît que la tâche sera difficile, mais elle y croit au micro d'Olga Massangou.
Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas que je suis blessée. Je suis désolée pour la prestation qui se passe actuellement. Du coup, je ne regarde même pas l'Internet. Je suis là, je me focalise sur les soins et pour travailler plus, pour faire plaisir au peuple congolais. On continue de travailler parce que nous reste 3 matchs, très capital pour nous, pour passer en quart de finale. On n'a pas le choix, on a relevé vite la tête et on travaille ensemble pour affronter les 3 matchs qui restent. L'objectif, c'est de sortir avec la victoire. Et puis, les Tunisiennes aussi ne vont pas venir pour perdre. Le problème qui est là, c'est de rester soudés et d'avancer tous ensemble, comme on a toujours fait. On n'a pas le choix, il faut qu'on mette la tête dans l'eau et remporter la victoire.
Il est 12h46 en temps universel, vous écoutez RFI.
Afrique Midi. Nicolas Brousse.
Samedi 30 novembre, merci de rester avec nous pour la partie magazine avec, par ordre d'apparition dans vos oreilles, la rédaction de Jeune Afrique qui fait sa une sur la situation dans l'ouest du Cameroun. L'éditorial de Jean-Baptiste Placa consacré à la reconnaissance par la France du massacre au camp de Tiaroy, reconnaissance au bout de 80 années. Et puis un mot, une histoire, territoire, évoque beaucoup de choses et pour cause au romancier palestinien Karim Khatan. À la une de Jeune Afrique cette semaine, le Cameroun donc, et plus précisément la situation dans l'ouest du pays, région qui est en proie depuis maintenant 8 ans à un conflit qui s'éternise donc entre l'armée camerounaise et les séparatistes amazoniens. François Soudan, directeur de la rédaction de JIA, répond à Catherine Poté.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
L'envoyé spécial de Jeune Afrique qui s'est rendu sur place a pu faire l'état des lieux et notamment le point sur les rapports de force dans la région. Quels sont-ils aujourd'hui ?
Alors, ce qu'a constaté notre envoyé spécial Franck Fouté, qui s'est rendu à Bamenda, la plus grande ville anglophone du Cameroun, c'est que l'armée y est très présente, mais que dès que l'on s'en éloigne de quelques kilomètres, apparaissent les premiers barrages, tenus par des rebelles séparatistes, les Zamba Boys, comme ils se surnomment, avec Kalachnikov, fusils de chasse et amulettes en bandoulière. On est là dans un scénario d'une guerre de basse intensité, avec embuscades, poses de bombes artisanales, harcèlement côté rebelles et opérations de ratissage côté armée, mais finalement, peu d'affrontements directs entre les deux. Le tout sur fond de violence endémique qui a fait tout de même 6 000 morts, 1 million de déplacés depuis le début du conflit. Donc en 2016, alors la structure séparatiste, de commandement séparatiste, elle a connu de gros revers ces dernières années, avec l'arrestation, la condamnation en perpétuité d'une dizaine de ses dirigeants, dont son président Julius Ayuk Tabe, et celui qui lui a en quelque sorte succédé, Lucas Ayabacho, vient lui d'être interpellé, c'était fin septembre, en Norvège, où il s'était réfugié pour incitation à la commission de crimes contre l'humanité. On a donc affaire à un mouvement en partie décapité, presque acéphale, aux mains de commandants locaux, ce qui n'a fait que précipiter son glissement dans une forme de criminalité incontrôlable, Catherine.
Et c'est bien sûr une situation difficile à vivre, pénible même pour la population civile qui est soumise à rude épreuve, François.
Oui, tout à fait, elle peut éprouver, cette population civile anglophone des deux provinces, nord-ouest, sud-ouest, une certaine sympathie pour les revendications identitaires portées par les séparatistes amazoniens, ce qui explique notamment le relatif succès des opérations Ville Morte ou des défilés indépendantistes organisés dans les villages. Mais elle est en réalité très largement prise entre le marteau de la répression et l'enclume de la rébellion. L'exemple typique, Catherine, c'est celui de ces reçus exigés par les séparatistes à chaque barrage, certifiant que l'impôt de libération a bien été acquitté. Alors, faute de quoi, on vous déleste de tous vos biens. Mais si, de retour en ville, l'armée saisit sur vous ce même reçu indispensable donc pour se déplacer en brousse, c'est l'arrestation immédiate pour complicité avec ceux qu'elle considère comme des terroristes. Alors d'un côté, vous avez une rébellion qui pratique le racket à grande échelle et qui s'est spécialisée dans les enlèvements contre rançon accompagnés de violences physiques. Il y en a eu 450 hein, en 2023. Et de l'autre, des forces de l'ordre qui procèdent par rafle de suspects et dont les pratiques de cash arrest, les arrestations pour de l'argent, sont dénoncées par nombre de témoignages recueillis par notre envoyé spécial. On est donc dans une sorte de cercle vicieux, pratiquement inchangé depuis 8 ans, Catherine.
Dernière question, François Soudan, après 8 ans de conflit, y a-t-il aujourd'hui un espoir de sortie de crise ?
Alors, il y a eu plusieurs tentatives de sortie de crise. Le Grand Dialogue National de 2019, par exemple, les offres de médiation des gouvernements suisse-canadiens, la communauté Sant'Egidio, l'octroi d'un statut spécial aussi pour les deux régions. Mais tout cela n'a pas eu de vraie consistance ni de portée réelle sur le terrain, en grande partie parce qu'elles se sont heurtées à des manœuvres de sabotage de la part des faucons des deux côtés. Alors, l'indépendance étant évidemment exclue et la politique du tout répressif ayant montré ses limites, la solution se trouve sans doute sur une sorte de ligne de crête entre le retour au fédéralisme aboli en 1972 et une décentralisation qui ne soit pas hybride, mais fondée sur une vraie délégation de pouvoir. C'est à ce prix que l'on sortira peut-être d'un statu quo dont sont victimes les quelques 4 millions d'habitants de ces deux provinces. Maintenant, où est la volonté politique d'y parvenir ? Pour l'instant, on ne l'aperçoit guère, Catherine.
Merci François Soudan. Ce reportage dans l'ouest du Cameroun est à retrouver dans le mensuel Jeune Afrique du mois de décembre ou sur le site internet jeuneafrique.com.
Le directeur de la rédaction de JA, François Soudan, avec Catherine Poté. Et on retrouve notre éditorialiste. Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Nicolas Brousse.
Dans une lettre à son homologue sénégalais, le chef de l'État français annonce que la France se doit de reconnaître que la confrontation de militaires et de tirailleurs qui exigeaient l'entièreté de leur solde légitime a déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre le 1er décembre 1944 au camp de Tiaroy. Jean-Baptiste, ne devrait-on pas se féliciter d'une telle reconnaissance ?
80 ans après cet événement douloureux, l'amertume des peuples et des familles demeure. Sans doute parce que l'on a trop longtemps ignoré leur souffrance, pratiquement incurable désormais. Et il ne faut pas s'étonner qu'une indifférence aussi longue ait des conséquences. Très peu font le rapprochement entre ces meurtrissures aggravées par le temps et le fait que la France en Afrique va de déconvenu en déconvenu. Ce sont de tels contentieux qui, insidieusement, alimentent les rancœurs que d'aucuns qualifient de sentiments anti-français. Et Paris ne peut espérer enrayer une certaine perte de vitesse dans ce qui était jadis son précaré uniquement avec des gestes ponctuels en direction d'un pays donné par rapport à un contentieux précis. Pour reconquérir la bienveillance des peuples africains, la France devra s'inventer une politique claire, transparente, qui ne fluctue pas à la tête des dirigeants.
D'accord, mais Tiaroy est tout de même un symbole important.
Que de symboles importants dans le flot des contentieux historiques de la France en Afrique. Chaque ancienne colonie a les siens. Certes, Tiaroy a donné lieu en 1988 à un film magnifique qui aurait dû constituer un déclic. Ceux des jeunes Africains d'aujourd'hui qui ont vu ce film y découvrent des propos, des comportements qui font écho à ce qui nourrit chez eux les sentiments que déplorent certains. Quelques dialogues du film leur rappellent que la mentalité qui prévalait à l'époque du massacre de Tiaroy n'a pas totalement disparu.
Jean-Baptiste, le film est-il donc si réaliste ?
Il vaut le détour. Ainsi, lorsque le général rassemble les officiers supérieurs pour trancher la question du paiement aux tirailleurs de ce qui leur avait été promis, on découvre deux profils dissemblables, le meilleur juste en face du pire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tout cet argent au fond de leur case ? S'interroge un officier qui suggère de le leur changer à la moitié de sa valeur. Mais ironise-t-il, le capitaine Raymond n'est pas de cet avis. Seulement, capitaine, vous ne connaissez pas les indigènes et vous ne connaissez pas les colonies. Il ne s'agit pas de connaître les colonies ou les indigènes, comme vous dites. Il s'agit de simplement respecter nos engagements, répond le capitaine. À Morlaix, une avance leur a été donnée avec la promesse absolue qu'ils seraient intégralement payés dès leur arrivée à Dakar. Les combattants français blancs, eux, ont été payés. Mais chaque guerre demande une période d'austérité, lance un autre. Vous n'allez pas me dire que c'est en escroquant un millier d'indigènes que la France pourra se reconstruire, réagit Raymond. escroqués. Nous nous sommes montrés très généreux avec eux. La France est généreuse avec ses indigènes. D'ailleurs, nous les avons sortis de la barbarie. Il ne s'agit pas de générosité, rétorque Raymond, mais de justice. Quant à la barbarie, je ne sais pas si elle est chez eux ou chez nous. Et l'autre de contre-attaquer. Quant à moi, je dis que ces gens qui sont d'un naturel primitif ont été manipulés, voire achetés par les nazis ou par les bolcheviks pour déstabiliser l'Empire. D'ailleurs, comment aurait-il pu revenir des camps sinon? Comment on peut dire, penser des choses pareilles, s'emporte Raymond. Pour Hitler, les juifs, les communistes, les francs-maçons, les tiganes, les noirs, tout ça, c'est à éliminer. Quant à nous, nous sommes allés chercher ces noirs dans leur village pour leur faire faire la guerre à votre place, messieurs. Mais Raymond perdra son combat et le massacre aura bien lieu.
La semaine de Jean-Baptiste Placat à retrouver quand vous le voulez sur RFI.fr. Qu'est-ce que les mots nous évoquent? Comment résonnent-ils en nous? Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher à Lucie Bouteloup. C'est la chronique « Un mot, une histoire ».
C'est un mot qui évoque des lieux inconnus, des lieux à inventer, des lieux à découvrir. Des planètes, des couleurs, des continents, des îles, des forêts. Enfin, vraiment, c'est un mot qui charrie toutes ces images avec lui et une forme d'aventure de l'imagination.
Il se définit comme écrivain et non comme auteur, un terme qu'il juge trop prétentieux. Karim Khatan est palestinien et dès son plus jeune âge, il apprend à maîtriser plusieurs langues. Il y a l'arabe, bien sûr, l'anglais aussi, mais c'est en français qu'il choisit d'écrire. Dans son deuxième roman, « L'Éden à l'aube », il raconte une folle histoire d'amour entre deux hommes dans une Palestine occupée. Et pour cet épisode, il a choisi de me parler d'un mot qui résonnait particulièrement en lui.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Je vais vous parler du mot « territoire ». J'ai choisi ce mot parce que je le trouve éminemment poétique et politique à la fois. Et j'aime comment il articule les deux. C'est-à-dire que territoire, c'est un mot qu'on peut approcher d'une manière purement administrative. C'est une étendue géographique définie. Et en même temps, c'est la terre telle qu'elle est habitée par les êtres humains. Et je trouve que cette idée-là, que le territoire, c'est vraiment l'espace tel que les humains vivent dedans, se l'approprient et se l'imaginent, c'est très beau. J'aime bien aussi cette ambivalence, donc on peut aller dans un sens comme dans l'autre et on peut les combiner, on peut faire des choses tout à fait inattendues avec un mot aux mille définitions.
Comment est-ce que vous délimitez ce territoire ?
C'est vraiment la question, je crois, en fait. Quand on parle, voilà, comme ça, communément, à l'oral, de territoire, immédiatement, on imagine les frontières, je pense. Et pourtant, je crois qu'il y a quelque chose d'autre dans le territoire, derrière cette première définition du mot, qui serait affranchi de ses limites géographiques. C'est toute l'épaisseur historique, littéraire, qu'on donne à un espace. Et c'est cette épaisseur-là qui m'interpelle dans le mot de territoire.
Qu'est-ce qui dit de vous, ce mot territoire ?
Alors d'abord, il y a un intérêt esthétique pour les questions d'espace. Je me rends compte voilà, que dans mes différents romans, l'écriture commence à partir des lieux. Donc évidemment, le territoire est d'emblée en fait, central dans ce que j'écris. Et puis voilà, je viens d'un endroit qui parfois est appelé territoire palestinien. C'est une appellation que j'aime pas pour toutes sortes de raisons, mais de fait, c'est une appellation qu'on m'attribue beaucoup. Et pour moi, à la fois, il y a un rejet de cette terminologie, et en même temps, bah maintenant que j'associe au mot territoire une poétique, j'ai l'impression de pouvoir retrouver ma place dans ce vocabulaire. J'associe souvent des couleurs aux mots dans ma tête. Et territoire, parfois, est un mot gris, parfois est un mot bleu, parfois est un mot vert, et parfois est un mot aux couleurs que je ne sais pas décrire. Et je crois que c'est ça que j'aime dans ce mot.
Selon le dictionnaire Le Robert, le mot « territoire » désigne une étendue de la surface terrestre sur laquelle vit un groupe humain, mais aussi une étendue de pays sur laquelle s'exerce une autorité, ou encore la zone qu'un animal se réserve.
C'était un mot, une histoire.
et la chronique était signée Lucie Bouteloup. L'Éden de l'Aube, le nouveau roman de Karim Khatan, est paru aux éditions Elizade. C'est la fin de cette édition d'Afrique Midi, mise en onde par Diego Tenorio, rédaction en chef Karine Franck avec Cécile Périllard. À suivre le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest, où vous attendent 30 minutes d'informations en full day. Et en Afrique lusophone, vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'infos en portugais. C'est aussi ça la richesse de Radio France Internationale. Dans 30 secondes donc, le retour de l'info.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, on célèbre en musique l'écrivain afro-américain James Baldwin. On décrypte le titre le plus écouté du moment, Apathé, 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 Apathé. Et on revient à un concert très spécial de la plus connue des Islandaises, Björk.
Bonne pulsation du monde. C'est tous les dimanches à 14h10 TU sur RFI.
BPM.